Radio Prague, les informations.
Affaire Diag Human, la République tchèque fait appel de la décision de la justice française. Prague Pride, le président tchèque soutient son proche conseiller accusé de propos homophobes. Opposants et partisans de l'abattage d'autres d'arbres malades dans la Šumava manifeste à Prague. Le ministère tchèque de la Santé a décidé de faire appel de la décision du tribunal de grande instance de Paris concernant le litige qui oppose l'État tchèque et la société Diag Human. Au printemps dernier, un tribunal autrichien avait ordonné une saisie d'œuvres d'art tchèques pour indemniser la société qui a remporté un arbitrage international contre la République tchèque. Suite à cela, le tribunal de grande instance de Paris avait reconnu comme légalement valide le verdict de la procédure d'arbitrage, condamnant la République tchèque à payer à Diag Human un dédommagement de quelque 400 millions d'euros. Le Parti social-démocrate est le plus petit parti de la coalition gouvernementale Affaires publiques demande au président tchèque Václav Klaus de se distancier des propos homophobes de son chancelier adjoint. Pour une des membres du parti ČSSD, de tels propos sont inacceptables, venant d'un proche conseiller du chef de l'État. Le président Klaus a toutefois fait savoir dans un communiqué qu'il soutenait Petr Hayek. D'après lui, le maire de la ville de Prague n'aurait pas dû accepter le patronage de la première marche des fiertés de la capitale tchèque qui se déroulera le 13 août. Sur le site de la revue Parlamentní listy, Petr Hayek a condamné un événement qui, d'après lui, élève les, je cite, « déviations sexuelles ou autres au rang de vertu, la normalité au rang de normes et la destruction de la société au rang de saint progrès ». Fin de citation. Il reproche en effet au maire de Prague d'avoir apporté son soutien au festival. La deuxième ville du pays, Brno, organise déjà sa propre marche des fiertés depuis 3 ans. Petr Hayek n'en est pas à son premier coup d'éclat. 24 sénateurs représentant 3 partis différents ont envoyé une lettre ouverte au Premier ministre et chef de l'ODS Peter Nečas pour lui demander de veiller à ce que Ladislav Batora soit renvoyé du ministère de l'Éducation où il dirige le service du personnel. Depuis déjà plusieurs mois, les sénateurs lui reprochent notamment son engagement avec le parti d'extrême droite Narodní strana. Ladislav Batora est également le chef de l'initiative souverainiste DOST, proche du président Klaus. À ce propos, le ministre de l'Éducation Pavel Dobesh s'est insurgé contre les critiques des sénateurs et a défendu Ladislav Batora, arguant qu'il n'existait aucune preuve que ce dernier soit raciste. Ce vendredi, une centaine d'opposants à l'abattage d'arbres atteints par le scolyte dans le massif de la Šumava ont manifesté devant le bâtiment du ministère de l'Environnement. Ces arbres se trouvent dans une région naturelle protégée du massif. Des habitants de la région avaient également fait le déplacement pour eux manifester en faveur de l'abattage des arbres malades. Aucun incident n'a été signalé entre les deux groupes. La manifestation contre l'abattage des arbres était organisée par le mouvement Duha qui demande que soit également respecté l'avis des scientifiques qui s'opposent à la gestion actuelle du parc naturel. Le nombre de foyers à une seule personne a pratiquement doublé en 15 ans d'après les derniers chiffres publiés par le Bureau des statistiques tchèques. En 1995, on en dénombrait alors 670 000 contre près d'1,23 million aujourd'hui. Ainsi, un habitant sur 8 vit seul en République tchèque. Un résultat qui, d'après les démographes, s'explique notamment par le vieillissement de la population et les changements au sein de la société. Ce phénomène est également observé dans d'autres pays de l'Union européenne. On finit par un mot de météo. Samedi, jour de fête des Oldřiška, il fera chaud et lourd avec des températures oscillant entre 24 et 28 degrés. Nuages et averses sont également prévus. Des orages localisés pourraient également éclater. C'est la fin de ce bulletin d'information. Tout de suite, la suite du programme.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour, vous êtes toujours à l'écoute du programme en français de Radio Prague. Dans la première partie de notre émission, nous parlerons d'énergie nucléaire et plus précisément d'uranium, un minerai de plus en plus précieux que les autorités tchèques songent à extraire à nouveau en grande quantité. Et puis c'est de culture dont il sera question ensuite. Vous entendrez l'un des danseurs français du ballet Les Rois Soleils donné cette semaine à Prague. Dans la deuxième partie de ce programme, vous retrouverez Alena Gebertova pour le miroir de la société. L'Allemagne a annoncé sa décision de ne plus produire d'énergie nucléaire dans quelques années. Pour plusieurs de ses voisins, une telle décision est pour l'heure inconcevable, même après le traumatisme de Fukushima. Pour la République tchèque, la tendance est même inverse. Prague veut augmenter la capacité d'une de ses 2 centrales et songe désormais à rouvrir ses anciennes mines d'uranium pour subvenir à ses besoins en combustible nucléaire. Reportage signé Alexis Rosenzweig.
Il ne reste plus qu'une mine d'uranium encore en activité en République tchèque, l'une des toutes dernières en Europe. À Dolní Rožínka, les mineurs font les 3-8 à plus de 1000 mètres de profondeur. Interdit de travailler plus de 10 ans ici à cause des potentiels risques sur la santé. D'ailleurs, pendant longtemps, ce sont des prisonniers politiques que le régime communiste envoyait creuser. Peter Kšiš est l'ingénieur en chef de la mine.
Tous les vêtements qu'on porte dans la mine, même les mouchoirs ou les serviettes, sont lavés ici parce qu'ils sont légèrement irradiés. Et même l'eau qui sert à les laver, parce qu'elle est légèrement contaminée par l'uranium, doit être décontaminée. On emmène un dosimètre qui mesure les radiations gamma.
Les réserves de la mine vont bientôt être épuisées et Dolní Rožínka sera fermée dans quelques années. Mais le prix de l'uranium a connu une telle envolée pendant la dernière décennie que les autorités tchèques songent sérieusement à rouvrir d'anciennes mines. Car aujourd'hui, le sous-sol tchèque renfermerait encore 30 à 70 000 tonnes d'uranium, équivalent à plusieurs milliards d'euros. Josef Lazarek est l'un des responsables de la société publique en charge de la gestion de l'extraction.
En République tchèque, même après les événements du Japon, la volonté de continuer l'activité nucléaire n'a pas faibli. Sans l'uranium et sans l'énergie nucléaire, je ne pense pas que notre pays et l'Europe tout entière puissent s'en sortir dans les 30 ou 40 prochaines années.
Le ministère tchèque de l'Industrie a récemment rédigé un rapport dans lequel il est clairement établi que le pays ne pourra se passer de son uranium. Pavel Velček est le porte-parole du ministère.
Avec le potentiel d'uranium dont nous disposons, il est certain que nous allons l'exploiter au cours des prochaines décennies. Mais bien évidemment, nous appliquerons des méthodes d'extraction qui respecteront l'environnement.
C'est à Strash-Podralskem que se trouve le gisement d'uranium le plus important. Mais sous le communisme, la région a énormément souffert de la pollution liée à l'extraction chimique du combustible nucléaire. Le désastre provoqué par l'acide sulfurique est d'une telle ampleur que le nettoyage est prévu pour durer jusqu'en 2040. Josef Jaderný, du Parti des Verts, est l'un des leaders du mouvement contre une potentielle réouverture des mines dans cette zone où les sols ont été contaminés et les nappes phréatiques menacées.
C'est ici, au milieu de ce champ, qu'ils pourraient construire leur mine et s'installer. C'est le cœur du gisement d'uranium. Il y en aurait 20 000 tonnes. S'ils reprennent l'exploitation, s'ils recommencent à injecter des milliers de tonnes d'acide sulfurique dans le sol, alors on courra un risque énorme d'une catastrophe écologique.
La pression économique pour exploiter le minerai qui permettrait de faire fonctionner les deux centrales tchèques est bien palpable. Elle ne vient pas que de l'État. Josef Malek, le maire de la commune de Věžnice, située sur un important gisement, a déjà reçu plusieurs visites de l'étranger.
Il y a la responsable d'une société australienne d'exploitation d'uranium qui est venue nous voir. Elle a promis une part des recettes pour la commune à condition de pouvoir extraire l'uranium, 375 000 dollars par an. Elle nous a aussi expliqué qu'ils pourraient construire des routes ou réparer l'école et la maternelle, qu'ils allaient faire quelque chose pour la commune. On a refusé. Mais je pense que c'est inévitable qu'on finisse par extraire de l'uranium ici. On ne pourra rien faire pour arrêter ça. Tout ce que nous pouvons, c'est retarder l'échéance.
L'uranium, trop précieux pour ne pas être exploité. Pour certains, l'argument économique est une évidence et les technologies modernes permettront de réduire l'impact sur l'environnement. Cela permettrait aussi à la République tchèque d'être moins dépendante du gaz et du pétrole russe. Un argument rejeté par ceux qui constatent que l'uranium tchèque doit être enrichi à l'étranger et qu'il est toujours enrichi en Russie.
Une soirée de gala a attiré ce jeudi au Théâtre National de Prague de nombreux amateurs du ballet. Ils sont venus pour assister au spectacle intitulé « Les Rois Soleil », spectacle qui a réuni dans le cadre d'une tournée internationale plusieurs danseurs solistes des meilleures troupes de ballet européennes. Des duos et des scènes d'ensemble ont été interprétées, entre autres, par les danseurs du Bolshoï de Moscou, des célèbres troupes de Stuttgart et de Berlin, du Netherlands Dance Theatre, de la Compagnie Nationale de la danse d'Espagne, etc. L'Opéra de Paris a été représenté par un duo du chorégraphe Jean-Philippe Durie, exécuté par Myriam Kamionka et Bernard Courteau. Ce dernier a répondu après le spectacle à quelques questions de Václav Richter.
Qu'est-ce que vous pouvez dire de la chorégraphie que vous avez présentée ce soir au Théâtre National ?
Alors, c'est une chorégraphie d'un danseur du Ballet National d'Espagne qui était à l'Opéra de Paris. Il a fait ce fado sur une musique portugaise, bien sûr, assez simple finalement. Il n'y a pas beaucoup de technique, c'est sur l'émotion entre deux êtres.
Il y a une inspiration folklorique.
Je suis pas sûr, ça reste assez abstrait quand même. Et il nous laisse quand même beaucoup de liberté d'exprimer ce qu'on a quand même envie. Alors il y a des danseurs qui le voient plus mélancolique que d'autres, des danseurs qui voient plus quelque chose de folklorique. Puis ça, moi ça a changé tout au long de la tournée, l'émotion en fait a changé. Ce soir il y avait beaucoup d'émotions, je sais pas si c'est la ville, si c'est le fait que c'est le dernier spectacle de la tournée, mais c'était beaucoup d'émotions.
Vous avez dit que c'est la fin de votre tournée, vous avez dansé déjà dans quelle ville ?
Bratislava et Budapest. Et
il y avait combien de spectacles ?
Un seul dans chaque ville. Un seul dans chaque ville. On s'est tous rencontrés il y a à peine 10 jours, même pas, une semaine, 10 jours.
Combien de temps vous avez préparé ce spectacle ?
Alors on l'a préparé séparément. Et on a travaillé quand même un mois et demi sur les deux duos. Puis bon, il faut travailler en même temps que de danser ailleurs, que de préparer d'autres choses.
Vous venez de danser au Théâtre National de Prague, mais c'est un théâtre que vous connaissez déjà, n'est-ce pas ?
Oui, j'ai eu beaucoup d'émotions quand je suis revenu. J'ai reconnu les loges, bien sûr, la salle. Oui, tout m'est revenu comme ça en quelques heures.
Avez-vous encore en mémoire vos productions ici, au Théâtre National ? Est-ce que vous pouvez évoquer ces spectacles ?
C'était très très intéressant la première fois que je suis venu, parce que c'était quand même il y a 15 ans, peut-être 10-15 ans, et la ville était vraiment différente. La deuxième fois que je suis revenu, j'ai vraiment vu la ville changer, même la compagnie. Il y avait quelque chose de très... Il y avait une protection, quelque chose avant qui était assez fermé, mais qui était assez chaleureux aussi, qui était... que j'avais bien aimé. Non, c'était très intéressant.
Et maintenant, il y a un changement dans le sens positif ou négatif ?
Je ne peux pas dire, je ne connais pas assez bien. Il y a juste un gros changement. Mais même aussi par rapport à la ville, je l'ai vu. J'ai vu que la ville s'est ouverte au monde. C'est clair.
Et dans quel spectacle avez-vous dansé à Prague ?
Gisèle et un programme où je dansais Tarentelle de Balanchine. Donc voilà, deux programmes très différents. Et peut-être avec une bonne dizaine d'années entre les deux. Peut-être 7-8 ans entre les deux. Et un changement de direction aussi, donc de point de vue artistique. Et ça, c'était intéressant de voir où allait la République tchèque dans la danse, comment elle s'ouvrait un peu au répertoire du monde, aux danseurs internationaux.
Vous préférez la danse classique ou la danse moderne ?
Je préfère pas la danse classique, je préfère pas la danse moderne. Et je suis arrivé dans ma carrière à arriver danser des grands ballets du répertoire, encore et encore et encore, mais en y trouvant une énergie qui correspond à mon époque. Et ça me fascine. Parce que je me dis, pourquoi le Lac des Cygnes est encore dansé ? Pourquoi Casse-Noisette est encore dansé ? Pourquoi on en a encore besoin ? On en a encore besoin parce que nous, les artistes, ça nous permet d'exprimer des choses qui sont essentielles dans la vie, qu'elles soient au XXe siècle, au XVIIIe siècle, au XIXe... Voilà. Dans tous les siècles, on a besoin de ces émotions-là.
C'était le danseur Bernard Courteau au micro de Václav Richter. Fin de la première partie de notre programme en français qui se poursuit dans un instant avec le miroir de la société. Comme le veut la tradition, dans 3 mois, donc en novembre, sera ouverte la nouvelle saison des bals en République tchèque. Au début de l'année, le quotidien Lidové noviny a consacré 2 pages entières au phénomène, à la tradition, au présent et aux spécificités des bals dans les pays tchèques. Rediffusion aujourd'hui d'une émission proposée en février dernier par Alena Gebertova.
Miroir de la société à la lumière de la presse.
Les bals en République tchèque connaissent actuellement une véritable renaissance. Des milliers de Tchèques ont déjà visité un des nombreux bals qui sont organisés à travers tout le pays ou bien s'apprêtent à le faire. Cet intérêt a été très probablement nourri par la récente diffusion d'un show télévisé inspiré par un identique programme britannique, au cours duquel des couples composés d'un côté de figures célèbres et d'un autre côté de danseuses et de danseurs professionnels se disputent les faveurs des spectateurs. Le taux d'audience de cette émission, qui en était à sa 4e édition déjà, a été très élevé.
Rien qu'au cours de...
Rien qu'au cours de ce week-end, une quarantaine de bals se déroulent dans tout le pays, écrit le journal, qui fait remarquer que ceux-ci sont fréquentés par les jeunes aussi bien que par les générations plus âgées. Ces dernières préfèrent les bals traditionnels, accompagnés d'orchestres qui jouent les danses classiques, valse, polka, foxtrot ou encore tango. Un problème pourtant, notamment dans les petites villes, qui disposent plutôt de petits groupes de rock ou autres que de véritables orchestres.
À noter que la République tchèque a encore conservé la tradition des leçons de danse, qui est une spécificité par excellence nationale. Dans un passé encore récent, ces cours ont été presque obligatoires pour toute jeune personne au seuil de l'âge adulte. Même si l'intérêt pour ces cours chaque année tendance à diminuer, on trouve toujours des jeunes, pour la plupart de 15 ans, qui sont prêts à s'y inscrire. Ce sont en revanche les cours pour adultes, toutes catégories d'âge confondues, qui connaissent en ce moment un véritable boom et qui sont très recherchés.
Pavla Duplinska vit à Prague. Lorsqu'elle a franchi le cap de la quarantaine, elle a décidé d'élargir la liste des activités auxquelles elle se consacre à des cours de danse qu'elle fréquente avec son partenaire. Elle explique.
D'abord, j'aime danser. J'ai toujours beaucoup aimé danser. Et lorsque j'ai découvert cette possibilité, je n'ai pas hésité une seule seconde. À Prague, on n'a pas beaucoup d'occasions d'aller danser, ce que j'appelle les danses classiques. Je ne veux pas dire seulement la valse ou la polka, mais aussi le jive, le cha-cha, etc. Et puis, j'ai appris aussi de nouvelles danses. Je suis par exemple follement amoureuse de la salsa.
À mon su, ces cours ou bien ces leçons de danse pour adultes sont destinées uniquement à des couples, n'est-ce pas?
Effectivement, oui. Ce n'est pas la même chose qu'avec les cours pour les jeunes, ou plutôt pour les adolescents qui ont 14 ou 15 ans, où il y a séparément des garçons et des filles qui choisissent un peu par hasard leur partenaire pour telle ou telle danse. En plus, nous, c'est déjà des leçons pour danseurs avancés ou légèrement avancés.
Et tu aimes bien?
J'adore. Non seulement parce que l'on peut danser, mais aussi parce qu'on s'amuse un peu comme si l'on était jeune, ou peut-être plus encore.
Le début de ce qu'on appelait les réunions dansantes à Prague remonte à la première moitié du XVIIIe siècle. Comme le souligne le journal Lidové noviny, elles étaient liées notamment aux tendances et aux mouvements patriotiques. C'est le très connu dramaturge et homme de théâtre Joseph Kajetan Till qui en fut l'un des principaux promoteurs et organisateurs. Et c'est également lui qui a décidé de remplacer le mot « réunion » par une expression typiquement tchèque, la « beseda ».
Les besedas, soit les bals tchèques, se déroulaient régulièrement à différents endroits de la capitale. La plus longue et la plus reconnue est la tradition de se organiser dans l'enceinte de Jofin, un bâtiment situé en face du Théâtre National, une tradition qui s'est d'ailleurs conservée jusqu'à nos jours.
À chaque bal, son nom. Le journal Lidové noviny dresse la liste de ceux qui sont dans le pays les plus répandus et les plus populaires.
Chaque école du cycle secondaire a son bal dit de baccalauréat, maturitni ples. Ces bals se déroulent d'habitude en hiver, donc quelques mois avant l'examen du baccalauréat. Toujours fréquentés par les parents et amis des étudiants qui se voient décorés d'écharpes attestant leur appartenance à la famille des bacheliers, ces bals se déroulent généralement dans une ambiance solennelle et assez émotionnelle.
Le bal des chasseurs, Myslivetsky Bal, est un événement mondain majeur dans les petites villes et à la campagne. Il est souvent lié à la dernière traque. Au bal des chasseurs, on peut voir un impressionnant nombre d'hommes en uniforme, le fusil à l'épaule. Toutes sortes de gibier est offerte lors de la tombola. Des spécialités liées à la chasse sont proposées au menu.
Le bal des sapeurs-pompiers Hasičský bal ressemble en quelque sorte à celui des chasseurs, sauf que les femmes en uniforme y sont plus nombreuses. Une tombola y est également toujours organisée, l'occasion de proposer des prix et des trophées de qualité.
Le bal des fleurs, Květinový bal, est destiné à tous les amateurs de danse et de belles plantes. Organisé par le Jardin botanique de Prague, à Jovine, il peut se targuer d'une remarquable décoration de fleurs. Parfois, cet événement clôt la saison de bal dans le pays et augure l'arrivée du printemps.
Il existe bien sûr beaucoup d'autres bals qui portent leur nom en fonction des professions ou des activités qu'ils représentent. Ainsi, on peut aller danser à des bals de jardiniers, de médecins, de marins, de juristes, etc. Il y a de quoi choisir dans les grandes ainsi que dans les petites villes.
Pavla, comme beaucoup de ses contemporains, aime fréquenter, outre les cours de danse, également les grands bals qu'elle choisit selon des critères bien précis.
Je vais 3 ou 4 fois par an au bal. J'ai choisi le bal où je veux aller en fonction de plusieurs critères. Je dois aimer l'endroit parce que l'ambiance est très importante. Je fais mon choix aussi selon l'orchestre qui va jouer, parce que la musique qui vous plaît, c'est important. Et finalement, ce qui compte peut-être le plus, c'est le partenaire avec qui je vais et aussi les amis qui nous accompagnent, parce qu'on veut non seulement danser, mais aussi s'amuser.
La saison des bals à Prague trouve son point culminant avec le bal de l'opéra. Le premier bal inspiré par le célèbre bal de l'opéra de Vienne dans les pays tchèques avait eu lieu en 1948. Cette tradition a été interrompue sous le régime communiste pour être renouvelée dans la première moitié des années 90 avec un côté très commercial, il faut bien le dire. Parmi les invités de marque que ce bal a pu accueillir depuis, on ne citera que 2 stars du cinéma français, Alain Delon et Michel Mercier.
C'était le miroir de la société avec Alena Gebertova et Alexis Rosenzweig, consacré à la tradition des bals en République tchèque. Fin de ce programme en français. Magdalena Hrozinkova au micro vous remercie de l'avoir suivi.